On va ouvrir la parole de Dieu, on va faire deux lectures dans le livre des psaumes et ensuite dans le livre de Esther. Et nous allons parler de la foi ce matin, que nous sommes appelés à vivre et à manifester dans ce monde qui la met à l'épreuve. Notre confiance en Dieu pourrait être beaucoup plus facile, sans difficulté, et ce n'est pas le cas. Psaume 130 et ensuite 131. On va lire les deux psaumes. Psaume 130 et 131. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Et ce sera l'introduction de cette méditation concernant la foi. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Et c'est le nom que nous portons désormais. Puisqu'Israël auparavant s'appelait trompeur, mais Dieu a changé le nom de Jacob pour lui donner un autre nom qui relève de la foi, vainqueur pour Dieu. Israël, et on se l'applique donc aux uns et aux autres, met ton espoir en l'Éternel. Et maintenant on va regarder au travers du livre d'Esther la réalité de cette parole du livre des psaumes, met ton espoir en l'Éternel. Quelles que soient les situations que vous traversez, mettez votre espoir en l'Éternel. Voilà. On va au chapitre 2 du livre d'Esther. Je vous invite à le lire en entier. C'est un beau livre dans la parole de Dieu, notamment parce que c'est une histoire vraie, vécue. Il y a d'autres passages qui ont une autre connotation, une autre dimension, telles que les lois, les psaumes, les proverbes. Voilà. Mais il y a des histoires vraies, vécues. Esther, Ruth, ce sont de beaux livres qui, et au travers de ce vécu, eh bien, le Seigneur veut nous parler. Donc on arrive au chapitre 2, versets 5 à 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On est dans un temps éloigné où les difficultés sont tombées sur Israël. Alors les raisons pour lesquelles les difficultés sont tombées sur Israël, je ne vais pas les développer, parce qu'une bonne partie c'est lié à la désobéissance d'Israël. Mais la réalité c'est cela, c'est que les uns désobéissent et les autres subissent les conséquences de la désobéissance. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui subit les conséquences de la désobéissance originelle. Et il se retrouve donc dans un autre pays déporté. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, donc sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et voilà un décor difficile concernant une jeune fille orpheline. Voilà. Dans le cadre de la déportation, le décès du père et de la mère vient se rajouter à la douleur d'être dans un autre pays. Et il se trouve qu'elle est belle de taille et de figure. Parfois, on pourrait penser que c'est un avantage d'être beau de taille et de figure, mais pas pour elle, parce qu'elle va être repérée à cause de cette beauté. Et elle va être ensuite prise pour rentrer dans le harem, même si elle est la première, et devenir la concubine du roi. Ça veut dire que de temps en temps dans nos vies, Et pourtant, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Les difficultés tombent à tel point qu'au bout d'un moment, on arriverait à regretter tout. Et dans le livre d'Esther, ce qui ressort, ce sont les difficultés, ça ressort très fort, mais ce qui ressort, c'est la fermeté de cette femme, le soutien de son cousin, qui va l'amener comme cela à tenir bon devant Dieu et devant les hommes. Le nom de Dieu n'est pas manifesté. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce livre, dans ce sens où c'est une foi simple et discrète. Néanmoins, c'est une foi qui est mise à rude épreuve et qui amène Hadassa à devoir tenir bon. Nous sommes les uns et les autres dans des situations qui sont difficiles pour différentes raisons, que ce soit au niveau familial, elle est orpheline de père et de mère, que ce soit au niveau moral, parce qu'elle se retrouve dans un contexte où elle n'aurait forcément pas aimé se retrouver, c'est-à-dire prise dans le cadre d'un harem. Ça doit être quand même particulier, une situation pareille. Voilà. Et c'est seule sa confiance en Dieu qui l'amène à supporter les difficultés de tout ordre, y compris familial. Et de temps en temps, dans les situations que nous traversons, je crois qu'il y a des questions que l'on peut se poser, que l'on peut poser à Dieu. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit nous qui donnions les réponses. Parce que si nous donnons les réponses, nos réponses seront fausses. Soit parce que notre cœur nous condamne, « Ah, je le mérite », peut-être même que quelqu'un va vous le dire, « Ce qui t'arrive d'une certaine manière, tu l'as cherché, tu le mérites », alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas. Cette femme, Hadassa, de toute évidence, ne mérite pas, n'a pas cherché, néanmoins, c'est ce qui lui arrive. Alors, ne donnons pas des réponses aux questions que nous posons à Dieu. Essayons d'éviter avec Dieu l'erreur que nous commettons souvent, c'est nous qui faisons les questions et les réponses. Avec Dieu, posons les questions, attendons la réponse. Et la réponse viendra. Même si dans la réponse de Dieu, ce n'est pas ce qui nous convient, même si dans la réponse à nos prières, ce n'est pas ce que nous attendions, parce que quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que certains sont revenus après la déportation. Ils sont revenus pour construire le temple, ils sont revenus pour construire la muraille, et là on est un petit peu plus tard. On est après Darius, on est avec Assuérus. Et certains sont revenus, certains ont été délivrés, certains, comparés à d'autres, ont été bénis, et d'autres ne l'ont pas été. Alors, ça met à mal notre confiance en Dieu, quand on est dans le même endroit, la même situation, la même difficulté, d'ordre politique, puis peut-être aussi d'ordre familial, et puis on voit qu'à côté, pas si loin que ça, parce que ce sont des voisins, les juifs en déportation, déjà que le peuple juif, c'est positif ce que je dis, le peuple juif c'est un bloc, c'est une entité. Et il y a un phénomène supplémentaire quand on est dans un autre pays, dans une contrainte, on se rapproche davantage les uns des autres. Donc ils savent très bien que les voisins sont partis, que même des membres de la famille ont pu rentrer au pays, mais pas elle, pas elle. Et c'est là où notre confiance en Dieu ne doit plus dépendre des circonstances, parce que sinon on ne va pas du tout arriver à tenir bon. Elle va pouvoir, comme cela, à supporter les difficultés. L'Écriture nous dit, et on va prendre des versets de la parole de Dieu sur ce point-là, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et l'état, il faut peut-être le développer dans toutes ses dimensions, ça peut être l'état aussi politique et géographique, « J'ai appris à être content là où je suis. » Et même si je regrette les circonstances qui nous ont amenés là, qui m'ont amené là, mais là où je suis, dans la ville où Dieu nous a placés, recherchons la paix et apprenons à être contents dans l'état où nous sommes, dans la chambre d'hôpital où nous sommes, dans la famille où nous sommes, dans le quartier où nous sommes, où ce n'est pas forcément toujours évident. Je crois que le monde dans lequel on vit, occidental, nous a amené à être moins endurants que ceux qui nous ont précédés dans les générations. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une certaine manière, c'est que dans les années passées, dans les siècles passés, la vie était plus rude, dans tous les domaines, hein, la vie était plus rude qu'aujourd'hui. et il tenait bon, et il progressait dans la foi. Et nous, aujourd'hui, d'une certaine manière, nous voulons éviter les problèmes. Nous ne voulons pas avoir de douleur. Même dans les interventions médicales, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de douleur. Mais on ne pourra pas, de toute façon, à tout prix, annuler la douleur. Il y aura une part de douleur. Alors, quand la douleur, on n'arrive pas à l'éviter, quand le mal, on n'arrive pas à l'amoindrir au minimum acceptable, comment réagir ? Va-t-on continuer de tenir bon ? Elle aurait bien des raisons de refuser sa situation, de s'opposer même à Dieu, le rendant responsable d'une certaine manière. Paul, dans d'autres circonstances, lui a dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Et il nous dit « Marchez selon la part que le Seigneur vous a faite. Si tu peux devenir libre, profites-en. » Mais il s'adressait à des esclaves. Et là, c'est beaucoup plus dur, une situation d'esclavage. On n'a jamais connu l'esclavage, par la grâce de Dieu, merci. On entend des témoignages tels que ce chant « Amazing Grace » de la part d'un ancien négrier. Mais quelle mentalité que d'aller en Afrique, prendre des gens de force, les enchaîner dans les cales de navires et les amener dans le Nouveau Monde pour les vendre. Quelle mentalité Et quand ces esclaves, parce que certains étaient des chrétiens, la preuve c'est qu'ensuite ils ont composé de beaux cantiques, quand ces esclaves lisaient ce que Paul écrivez aux Corinthiens, parce que ça datait de bien avant eux, marchez selon la part que le Seigneur vous a faite. Si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Peut-on arriver à être heureux dans une situation d'esclavage ? Bien, la réponse elle est oui. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Voilà. On continue au verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, et son édit est qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardien des femmes. Voilà. Elle est aussi prise. On voudrait éviter des problèmes. Seigneur, que ça ne m'arrive pas. Et ça vous arrive. Je ne voudrais pas que cette maladie me touche. Et cette maladie vous touche. Je ne voudrais pas que cette difficulté dans la famille arrive, et ça arrive. Elle fut aussi prise. Et là, c'est difficile, parce que on se pose bien des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? On réentend tout ce qu'on nous a dit, et peut-être que même nous avons dit à d'autres, Dieu a un plan pour ta vie. C'est vrai. Allez dire à Esther, Dieu a un plan pour ta vie. C'est vrai, mais elle a tout le mal du monde à le découvrir. Et une fois qu'elle l'aura découvert, ça ne va pas tarder, à l'accepter. Dieu a un plan pour ta vie. Non pas que Dieu veut ce qui t'arrive, t'arrive, ce qui vous arrive, vous arrive. Ce qui lui est arrivé. Alors nous, ça nous fait du bien aujourd'hui parce qu'on est béni au travers de l'exemple d'une telle femme et nous confirmons que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Néanmoins, ça lui est arrivé. Et si des choses difficiles à ce niveau-là de difficulté nous arrivaient, est-ce que nous serions toujours en train de dire « Dieu a un plan pour ma vie » Le plan pour ma vie n'est pas que, pour Esther, on va aller au fond de la question, n'est pas qu'elle devienne la concubine d'Assuérus, la plus belle et la première d'un harem, c'est pas le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu pour sa vie, c'est que cette femme soit un instrument de bénédiction pour son peuple quand le malheur va arriver. C'est cela le plan de Dieu pour sa vie. Et il ne faut pas, nous, que sous prétexte de spiritualité, on dise que tout ce qui nous arrive, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Non. Mais dans ce qui nous arrive, il y a une œuvre que Dieu va faire pour son peuple. L'Écriture nous dit que concernant Job, il n'a pas péché et il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Et on ressent la même chose chez Esther. Ça veut dire que ce n'est pas la foi réservée à quelques-uns, c'est la foi en Dieu, pour Dieu, qui est la même pour tout le monde et qui permet à Job de tenir, qui permet à Esther de tenir, qui permet à l'apôtre Paul en prison après avoir été roué de coups, de continuer de prier, de chanter les louanges du Seigneur. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie, de ramasser des coups pareils. Mais le plan de Dieu pour sa vie, il va le découvrir à la fin de la même nuit. C'est le salut du geôlier de Philippe et de toute sa famille. Voilà le plan de Dieu pour sa vie. Mais pour arriver à cet endroit-là et à ce moment-là, bien, il est passé par des chemins difficiles. On reste au chapitre 2, on va au verset 22. Mardochée eut connaissance donc d'une manigance, d'un mouvement d'irritation de la part de deux gardes du seuil à l'encontre d'Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Dans notre confiance en Dieu, il faut vraiment être près de Dieu pour ne pas se tromper et tirer des conclusions erronées de certains faits. Je m'explique. Ce roi qui, par un orgueil, un nombrilisme super développé, a mis de côté la reine, a jeté son dévolu sur un certain nombre de jeunes filles, folie royale, mégalomanie, tout ce que l'on veut, et cette petite cousine qui avait tout pour elle, en plus elle est belle de taille de figure, voilà qu'elle se retrouve la concubine du roi. Et maintenant j'entends qu'il y en a deux qui veulent s'occuper du roi. Alors, merci Seigneur. Et parfois on serait enclin de dire, devant une situation, et même devant des personnes qui nous ont fait du mal, peut-être pas directement, mais qui sont à l'origine du mal, et on voit maintenant que quelque part, c'est la roue tourne, comme on dit, il va leur arriver ce qu'elles ont provoqué. Alors Mardochée, que fait-il de cette information qu'il reçoit? Comment la gère-t-il? Eh bien, il la gère d'une manière spirituelle, en faisant confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'il veut faire du bien à ce roi. Et là, on est dans l'aspect spirituel et pratique. Faites du bien. Et ne maudissez pas. Humainement parlant, je n'ai même pas la peine de vous dire ce que moi j'aurais conclu. On aurait tous conclu la même chose. Ils vont lui régler son compte, je vais retrouver ma cousine et on va pouvoir vivre en paix. Et c'est normal. Très honnêtement, c'est normal. Seulement, Mardochée, il est un petit peu spécial. C'est un homme qui prie. Et il l'a inculqué à Hadassa. Et parce qu'il prie, il reçoit de Dieu les bonnes pensées. Il n'a pas les textes du Nouveau Testament que nous avons. Néanmoins, il a les vérités. Il les a, les vérités du Nouveau Testament, telles qu'elles sont mentionnées. Et ce que le Seigneur a dit, bénissez, même vos ennemis. Alors, il a connaissance d'un mouvement d'irritation de la part des gardes qui voulurent porter la main sur le roi, ça aurait pu être rapide et très vite. Et lui, eh bien, il le révèle à Esther, qui le dit au roi, et c'est marqué dans le livre des chroniques en présence du roi. On retrouve Joseph oublié dans sa prison, accusé à tort, et qui réagit de la même manière. On retrouve Daniel, qui va agir de la même manière, et qui voudra toujours faire du bien à ceux qui ne lui en font pas. Voilà. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et là, la tentation, elle est grande. Parce que le mal, c'est même pas nous qui l'avons voulu. C'est même pas nous qui l'avons prévu ni organisé. Il arrive tout seul. Alors, on pourrait le laisser passer. Non. Celui qui est né de Dieu et qui voit le mal sait désormais que concernant le mal, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est le vaincre et l'arrêter. Parce qu'il y a un principe malin dans le mal, qui est pervers. C'est que le mal, s'il l'avait laissé passer, ne serait pas tombé que sur Assuérus. Parce que vous avez vu, hein, qui c'est qu'il y a derrière Assuérus comme prétendant au trône? Imaginez que le second prétendant au trône soit passé à la royauté. Là, les Juifs, c'était fini. Et peut-être que Mardochée l'a pressenti cela, peut-être pas. Dans tous les cas, sachons une chose, c'est que le mal, il ne faut pas le laisser passer. Parce qu'il est porteur en lui-même d'un principe malin. C'est que ça va se retourner d'une manière ou d'une autre contre nous. Ça va impacter tout le monde. Le mal, le principe de Dieu concernant le mal, c'est de le vaincre et c'est de l'arrêter. Même si on aurait envie de le laisser passer. Même si nous aurions envie, et humainement parlant, avec beaucoup de raisons, que ça tombe et que certaines choses se règlent. On va au chapitre 4 et au verset 14. Aman, le futur prétendant, a révélé son état de cœur. L'édit est prononcé et à partir de là, au verset 12, il est dit, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, on va revenir quelques versets en arrière pour mieux placer tout ça au verset 10. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. » Vous voyez que les réponses arrivent à un moment donné dans notre vie. Voilà. Parce que Mardoché a fait dire à Esther, il faut informer, mais je n'ai pas été appelé depuis 30 jours. Voilà. Et quand on a une attitude dans la confiance en Dieu, il y aura dans la situation dans laquelle on est des solutions, des moyens de secours et des moyens de délivrance. La volonté de Dieu pour Esther et Mardoché n'était pas qu'ils quittent ce pays, et pourtant ils auraient tellement aimé le quitter et rentrer comme d'autres ont pu rentrer en Israël. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'ils soient les moyens de salut pour son peuple. Parce que Dieu sait ce qui va arriver. Dieu sait qu'il y a Aman et qu'il y en a d'autres après lui qui lui ressemblent. Et dans une situation pareille, comment le Seigneur pourrait simplement répondre à la demande de un ou deux pour les extraire ? Et les sortir de là et laisser les autres. C'est pour cela que parfois, il n'y a pas les réponses escomptées à nos prières, parce que Dieu veut que nous comprenions, alors nous on a du mal, j'ai du mal, rassurez-vous, que nous comprenions que pour le bien des autres, il est préférable que nous soyons encore là, que nous restions là, pour leur amener le moyen de salut au moment opportun. Et Mardoché est un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, et il lui dit... De toute façon, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Si tu ne fais pas l'œuvre, Dieu donnera le moyen de salut. Mais toi, tu ne seras pas un serviteur ou une servante utile entre ses mains. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà le plan de Dieu pour la vie d'Esther. Ce n'était pas qu'elle soit appelée de temps en temps par le roi, parce que ça, c'est une contrainte qu'elle subit et qui est rude, mais c'est qu'elle soit là pour sauver son peuple. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Quand nous posons les questions, laissons Dieu nous donner la réponse. Alors, elle va dire jeûner pour moi. Prier. Et il y a des moments dans les situations que nous traversons où il faut faire bloc dans le jeûne et dans la prière. Parce que c'est un moment difficile, c'est un moment important. À quand remonte la dernière fois que vous n'avez pas jeûné et prié ? Ce sont des moments importants dans la vie du croyant pour que des choses changent radicalement, foncièrement, pour que des choses soient inversées. Et Dieu va donner le moyen de délivrance. Dieu va intervenir. Maintenant, on va passer sur les chapitres 5, 6 et 7. Au chapitre 5, verset 2, elle rentre dans la cour. Intérieur. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, mais elle ne savait pas avant. Mais elle rentre debout dans la cour. Et par la foi, nous tenons ferme. Par la foi, nous restons debout. Il y a un temps où on s'agenouille, parce que c'est dur, on tombe peut-être à genoux, mais que ce soit à se mettre à genoux pour prier alors. Et après avoir prié, jeûné, après être tombé à genoux, on se relève et on tient bon, et on est debout. Celui qui a confiance en Dieu, il est debout en pleine tempête. Il est debout dans l'adversité. Il est debout en plein désert. Dieu a relevé les défis. En plein désert, il leur a fait construire le tabernacle. En plein désert, il leur a donné les tables de la loi. Dieu n'a que faire des circonstances défavorables. Il va intervenir en plein désert, il n'y a ni eau ni à manger. Eh bien, la manne va tomber, les cailles vont tomber, l'eau va sortir du rocher. Dieu va modifier les situations difficiles. Ma part, c'est de rester debout. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour tenir ferme, pour tenir debout en pleine tempête, en pleine adversité. Elle est debout. Certainement qu'à l'intérieur, elle tremble de la tête aux pieds, mais elle ne le montre pas. Alors, il faut être réaliste dans la foi. Le Seigneur ne me demande pas de paraître comme ce que je ne suis pas. Je ne suis pas si fort que ça, très honnêtement parlant. Lequel d'entre nous ne tremble pas à l'intérieur devant certaines situations? On tremble tous, mais on ne le montre pas. Dans la nuit de Gethsémané, lui-même a transpiré, et sa transpiration est devenue comme des grumeaux de sang. Quelle tension à l'intérieur! Mais il est resté ferme. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Par la foi, c'est le calme et la confiance qui vont côtoyer le trouble le plus extrême à l'intérieur. Et c'est nous qui devons trancher. Elle rentre dans la cour du roi et elle sait qu'il n'y a que deux choses qui peuvent se passer. Ou il tend le sceptre, ou elle finit pas la journée. Alors elle a dû se préparer. Alors je m'adresse à vous, mesdames. Essayez un instant de vous mettre à la place d'Esther. Elle doit se faire la plus belle possible pour aller peut-être mourir. Bon. Et des fois, vous n'avez pas envie de vous embellir. Et nous, quand nous sommes dans les difficultés, alors là, on est défait. On est défait. Parfume ta tête. Lave ton visage. Amen. Ne montre pas aux autres que tu pries et que tu jeûnes. Ne montre pas aux autres que ça ne va pas. Comment vas-tu, madame? Elle vient de perdre son fils. Tout va bien. Tout va bien. Et c'est à nous de non pas d'être faux dans la foi, mais de garder pour Dieu, dans notre intimité avec Dieu, nos douleurs, nos failles, nos « ça ne va pas, je n'en peux plus ». C'est le jour le plus dur de ma vie. Le jour le plus difficile de sa vie, elle se fait belle, et elle se présente devant le roi. Qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête et dans son cœur? On ne le sait pas. Et ce que le roi voit, c'est une femme exemplaire, belle. Son cœur est touché, mais elle vient pour autre chose. Elle ne vient pas pour toucher le cœur du roi, elle vient pour sauver son peuple. Et à cause de la foi qui est en elle, à cause du temps de prière qui est passé, à cause du soutien des autres dans le jeûne, elle se tient debout dans la cour. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est là qu'on voit la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas quand... un autre au feu rouge vient vous ennuyer. Là, j'oserais dire, vous pouvez vous lâcher. La maîtrise de soi, c'est ailleurs qu'il faut l'avoir. C'est quand tous les autres s'écrouleraient, par la grâce de Dieu, vous maintenez. Vous tenez ferme. Ah, il va falloir parler plus fort. Les faibles ont la force pour ceinture. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Voilà ce que va déclarer l'apôtre Paul dans des moments difficiles de sa vie. Et de temps en temps, on va toucher du doigt deux réalités. Notre faiblesse et nos genoux qui tremblent. Et la grâce de Dieu qui nous fait quand même tenir bon. Et qui nous fait tenir debout. Elle sent que les choses commencent à tourner. Mais elle ne se précipite pas. Elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. C'était la procédure apparemment. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Lui, il est dans une autre logique. Et elle, parce qu'elle a jeûné, parce qu'elle a prié, elle sait ce qu'il faut dire, elle sait comment il faut le dire, et elle sait à quelle vitesse il faut le dire. Trois points importants. Elle sait ce qu'il faut dire. Ce n'est pas le moment de dire « Aman, parce qu'il m'en veut. Voilà. Je suis là parce qu'il veut me faire mourir, c'est un mauvais. » Non, ça ne correspond pas à ce que Dieu attend d'elle en termes de dignité et d'exemplarité. Elle aura l'occasion de le dire, mais elle ne le dira pas comme ça. Elle va le dire autrement. Et c'est Dieu qui va lui donner, par son esprit, l'intelligence et la sagesse pour savoir comment le dire. Alors je m'adresse de nouveau à vous, mesdames, puisque c'est une dame, hein. C'est pas pour focaliser, mais dans une situation pareille, la première étape la plus dangereuse est passée. Il m'a tendu le sceptre. Bon, maintenant, comment on fait? Comment le dire? Parce qu'elle a jeûné et qu'elle a prié, elle sait déjà, et le Seigneur l'a dit, vous saurez au moment nécessaire, par l'Esprit, ce que vous aurez à dire. Et elle va simplement inviter à un festin. Oh. Surprenant. Surprenant. D'aucuns diront, ben, c'était culturel, c'était coutumier, c'est comme cela que ça devait se faire. Oui, mais ça ne vous vient pas des idées comme ça, si facilement. Hein. Un point majeur à régler, vous n'avez pas commencé à parler de repas et de festin, mais la foi nous donne l'intelligence et la prudence pour savoir comment gérer. Et nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Elle a besoin d'être transformée. Parce que si la première étape est passée, les autres ne sont pas encore passées. Parce qu'Aman, c'est un renard. C'est un malin. Et l'ennemi de nos âmes, c'est un malin. Alors ne commettons pas des erreurs grossières. Nous lui donnerions trop facilement le bâton pour nous faire battre. Laissons le Seigneur nous inspirer. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et cette femme... Pardon, décidément. Cette femme, à l'intérieur d'elle-même, elle dépend, au mot le mot presque, de ce que Dieu veut dire, de ce que Dieu va dire. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Et vous lisez chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, elle a pris le temps de dire les choses comme il fallait les dire. Et au moment de Dieu. Et là, les choses vont se faire. Et ensuite, vous arrivez au chapitre 8 et au chapitre 9. Et c'est la délivrance et la victoire. La délivrance et la victoire. Mais il a fallu tenir bon. Oh, c'est que c'est ici. Oh, c'est pas trop, vous savez. Voilà. Et parce qu'elle a suivi le cheminement spirituel qui convenait, Dieu va donner la délivrance et la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans cette situation particulière, la foi, c'est une histoire vécue. Quand nous parlons aux autres, parlons de notre vécu, pas de nous, mais de ce que nous avons vécu. Et nous nous rappelons que dans l'adversité, Dieu nous a permis de tenir bon. Nous nous rappelons que dans l'adversité, par la prière et par le jeûne, Dieu m'a donné les pensées et l'intelligence qui convenaient pour dire, pour prendre les décisions, pour faire les choses. Voilà. Et le Seigneur est celui qui va nous délivrer. Et je vais terminer avec la fin du livre, forcément. Chapitre 10, le roi Assuérus, chapitre 10 est très court, hein, il y a trois versets. Le roi Assuérus imposa un tribut au pays, aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier, après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Et ça, c'est magnifique. Mardoché, un homme qui aurait pu passer inaperçu dans l'histoire. Sauf que si on retrouvait aujourd'hui les écrits du roi Assuérus, on retrouverait le Mardoché, on retrouverait Esther. Mais il n'est pas passé inaperçu dans l'histoire, seulement son histoire. Et l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui est rude, déportée, dans la difficulté la plus grande, perdre son père, sa mère, ce qui aurait pu être un avantage, se retourne contre elle de manière... difficile. Tu es trop belle, ma fille. Viens comme concubine du roi. C'est là où certaines, peut-être jeunes filles, vont dire, ben, du coup, c'est pas si intéressant que ça d'être beau et d'être belle, parce que Daniel avait été amené sur les mêmes bases. Mm-hmm. Peu importe ces aspects-là, ce que Dieu voit du haut du ciel, c'est que dans un monde qui part à la dérive, et où son peuple est en grande difficulté, il peut compter sur des hommes et des femmes qui se ressaisissent vite, qui se tiennent debout, qui restent à leur place, et dont la prière n'est pas « Seigneur, sors-moi de là, mais Seigneur, sers-toi de moi. » Alors que nous aimerions dire « Seigneur, sors-moi de là, mais sers-toi de moi. » Et quand nous traversons, nous, vous et moi, des difficultés, de plus en plus, il y a quelque chose qui est comme une limite que je pourrais franchir, mais qui ne peut pas être franchi. C'est comment je pourrais demander au Seigneur de m'extraire moi de problème, alors que je le remercie, lui, d'être allé au bout. Alors, quelque part, notre vie chrétienne est en cohérence avec l'œuvre qu'il a faite pour le salut des autres. Ça ne justifie pas les problèmes que nous avons, mais ça explique que dans les problèmes que nous traversons, Dieu se sert de nous pour parler aux autres, pour bénir les autres. Et qui sait ? Et qui sait ? Que le Seigneur soit béni.